J'aurais deux questions, elles s'ensemblent. Le mot directeur a été inflexible avec vous, vous n'avez pas pu développer ce que vous avez commencé à dire sur les propositions de Demi-Moore et Whiteside. Est-ce que vous pourriez développer? Vous les avez évoquées rapidement à un moment en disant qu'il y a des choses à dire. C'était ma première question. Et la deuxième, donc alors on va un petit peu à celle-là. Vous avez sûrement lu le livre de Nicolas de Longeau, Comment débattre d'écologie? Non, ça vous dit rien? C'est sorti les dernières? Ah, ben c'est dommage. Après, vous devriez lire.
Je vais le lire.
Nicolas de Longeau. C'est chez PUF. Oui, mais c'était vraiment, ça croise certaines des remarques que j'ai faites. Bon, bonne lecture donc, pour le second.
Merci beaucoup. Donc, l'idée des trajectoires multiples, c'est de en fait, donner la possibilité aux différents acteurs de s'inscrire dans trois types de trajectoires. Une première trajectoire qui est standard sécurisé, c'est-à-dire des activités commerciales essentiellement. Qui adopte une forte réduction des consommations énergétiques, forte réduction de l'émission de CO2, avec une conscience écologique développée, mais qui s'inscrivent encore dans le système marchand couplé aux réseaux globaux. Donc c'est la transition de type économie verte, on peut dire un petit peu. Hein. Mais avec alors un soutien fort de l'État. Deuxièmement, une trajectoire hyper compétitive. Donc là, ça s'adresse plutôt à des entreprises ou des systèmes commerciaux qui sont en compétition globalisée, où elles ont une possibilité de continuer à avoir une trajectoire qui est moins radicalement orientée vers l'écologie, mais avec quand même aussi un système de retraite et de redistribution commun avec la première. Et troisièmement, c'est ce qu'ils appellent les trajectoires expérimentales, c'est vraiment des démarche de découplage des réseaux longs, type ville en transition, etc., etc. Donc avec des forts soutiens de l'État. Donc l'idée, c'est de donner envie progressivement, avec des aménagements de passage d'une trajectoire à l'autre. Donner envie aux acteurs de passer de la trajectoire hyper compétitive à la trajectoire sécurisée, etc., etc. Donc je trouve cette proposition intéressante parce qu'elle sort d'une vision tout ou rien qui a une certaine dimension de une certaine paralysie cognitive et affective par rapport à ces nécessités de transition.
C'est un article?
Oui, c'est un article. Dominique a publié une première version dans Le Monde, et puis il y a une deuxième version qui est en train de retravailler parce que depuis, il est plus satisfait de son modèle et qu'il a recomplexifié. Mais je pourrais vous envoyer la version actuelle si vous voulez. Ça va en même temps avec la réflexion sur la différenciation entre genre de vie, mode de vie et style de vie. Donc tout ça est inclus dans cette réflexion.
Alors moi j'avais une question sur, sur le rôle du terme d'acceptabilité. Donc tu t'appuies sur donc l'article, je crois que c'est donc qui est paru dans le dossier de Vertigo, dans un des articles, et tu me dis. La question de l'acceptabilité est intéressante parce que finalement elle est fortement liée à l'illégitimité de l'innovation. Bon, je ne sais pas si c'est là que tu l'as tiré ou si c'est de tes travaux à toi, mais et donc ça nous permet de nous servir de ce terme-là, d'acceptabilité, pour réinterroger finalement cette illégitimité. Mais tu as commencé ton intervention en soulignant le fait qu'on était tout le temps instrumentalisé. Sur cette question-là de l'acceptabilité. Tu as aussi, à un moment donné, souligné le fait que les dispositifs ou les processus participatifs aboutissaient très rarement sur un moratoire. Donc, dans quelle mesure le terme d'acceptabilité, plutôt que celui de controverse, par exemple, ne ferme-t-il pas le débat ou ne ferme-t-il pas certaines options, disons, dans ce contexte-là? C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends que conceptuellement, on puisse se servir d'un terme pour en interroger un autre, pour interroger un contexte ou une situation, ok. Mais nous, dans notre travail, disons, de chercheurs sur cette question de l'acceptabilité avec des acteurs, etc., dans quelle mesure prendre cette notion-là ne ferme pas, disons, un certain nombre d'options qui donc nous empêchent de penser, y compris parmi les trois options que tu viens de rappeler à l'instant, par exemple, hein, mais pas uniquement sur tous les points, toutes les controverses, justement.
Alors, à titre personnel, je ne pense pas que sur mes terrains, ceux sur lesquels je travaille aujourd'hui, on est effectivement toujours en porte-à-faux et à risque. j'utiliserai la notion d'acceptabilité. Donc là, je me suis mis dans le mood un peu de la journée, c'est-à-dire en voyant aussi quel était l'usage de la part des acteurs engagés, des chercheurs engagés dans la question environnementale de cette notion, en particulier au Québec. Je trouvais très intéressant l'usage qui en était fait. Mais à titre personnel, je ne reprendrai pas cette notion parce qu'en fait, nous en Allemagne, par exemple, je travaille beaucoup sur l'impact du séquençage à haut débit et de la médecine génomique humaine. Je travaille à la fois avec le monde politique qui est censé réguler ces trucs-là et puis avec les gens à l'hôpital qui les mettent en œuvre, les biologistes qui les mettent en œuvre. On commence par, comme profession de foi, par dire qu'on n'est pas là pour faire de l'acceptabilité. C'est l'entrée en matière en disant notre but, on n'est pas des acceptologues, on n'est pas là pour ça. On est là pour complexifier, pour donner la parole à des acteurs qui n'ont pas été entendus, pour explorer des voies qui n'ont pas été explorées, etc., etc. Donc, dans un sens, je te donne raison, si tu veux. C'est contextuel aux sphères de pratique. Je peux tout à fait concevoir dans le cadre de l'aménagement du territoire ou de l'implantation des systèmes de production d'énergie, ce soit une notion productive sur le plan démocratique, comme c'est démontré dans plusieurs publications aussi de collègues, notamment québécois. Mais moi-même, je ne l'utiliserai pas. C'est-à-dire que, pourquoi ? Parce que cette notion de... Parce qu'en fait, cette notion d'acceptabilité définie comme acceptance ou acceptation est déjà tellement engrammée et programmée dans la tête des innovateurs qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour la combattre. Donc il faut tout de suite couper ses racines dès l'origine. Je dirais que le travail qu'on peut faire par rapport à ça, il est très dépendant des terrains. Par exemple, sur les terrains biomédicaux, ils ne peuvent plus travailler sans nous. Il n'y a plus de possibilité de travailler sans les SHS sur les terrains biomédicaux. Par contre, il y a d'autres types de terrains sur lesquels, par exemple, comment on va réagir de manière contextuelle et stratégique. Je dirais que sur le terrain des nanos, par exemple, quand on est amené à intervenir avec Pierre Benoît jeudi, toute une série de collègues, dont Jean-Michel Fourneau à Grenoble, parce qu'il y avait un très fort conflit, c'était pas une controverse, c'était un conflit avec PMO. On a travaillé 4 mois là-dessus, on a fait des recommandations qui étaient hyper radicales, hein, c'est-à-dire financer la recherche faite par les associations à Grenoble, remettre en question les choix faits sur les nanos à Grenoble. On savait très bien que ça n'avait aucune chance de passer, mais on l'a fait volontairement. Ensuite, on a publié, je racontais ça à table, c'est un gars tout à l'heure, mais un papier dans Science & Sculpture avec Pierre Benoît pour faire le bilan de cette opération. Et moi, ça m'a valu d'être interdit au CEA Grenoble, d'accès sur le terrain du CEA Grenoble. Donc ça montre à quel point ces questions peuvent être, enfin, dans le contexte français, peuvent être lues de manière caricaturale. Ce n'était pas un article, c'était un article scientifique. Hein. Maintenant, il y a un autre aspect de la question, parce qu'on ne peut pas se limiter à la question de la participation et de la concertation quand on s'interroge sur ces questions d'acceptabilité. Il faut penser aussi à tout l'attirail de recherche-action qui existe. Pour moi, la participation, la concertation, c'est qu'un élément de l'attirail démocratique, des outils dont on dispose, comme la recherche-action, la recherche participative, l'EPICRI, la community-based research, etc. etc. Donc je vois ça dans le cadre d'un arsenal, et si on regarde évidemment que la participation, et qu'on prend pas en compte quelles sont ses vertus et ses limites, on est complètement à côté de la plaque. Et en général, c'est ce qui se passe, c'est que la plupart des acteurs ont une vision extrêmement partielle de l'éventail d'outils à disposition, d'outils démocratiques, d'outils cognitifs à disposition. Donc on arrive à des discussions complètement caricaturales, du genre, ici en France, c'est classique, à la fin d'une discussion avec des chercheurs physico-anthologie, alors quand même, si c'est crétin de citoyen, on va pas continuer à les interroger tout le temps, on va quand même pas leur donner leur avis. Quand les gens se lâchent, on arrive très vite à ces caricatures. Parce que le système démocratique représentatif lui-même n'a pas bougé dans son logiciel mental.
Mais pour prolonger la remarque, la question de Jérôme, est-ce que c'est pas parce que même dans le cadre où vous participez à un dispositif avec une posture critique, le dispositif, vous êtes quand même implicitement des cautionneurs de cette modernité technique. Mm-hmm. Et donc, du coup, paradoxalement, c'est normal que les opérateurs ne soient pas satisfaits de vos conclusions, parce que à partir du moment où vous participez au dispositif, c'est quand même que vous acceptez que le dispositif fait sens. Alors, c'est un peu le serpent qui se mord la queue quand on étudie les questions participatives. Et la deuxième remarque, pour prolonger, si tu n'es pas d'accord avec moi, du coup, c'est quand même, ça reste toujours dans l'idée que il y a une innovation technique
qui doit quand même participer à une amélioration de cette condition de la modernité du citoyen que tu as rappelé. Et donc là aussi, tant qu'on raisonne dans le cadre de cette modernité classique, on ne risque pas de changer le cadre d'analyse. La question de la technique, dès lors que c'est simplement de savoir si on améliore le process ou on optimise les effets ou on réduit les risques, personne ne se raconte. La question est de savoir si c'est compatible, par exemple, avec les enjeux de la crise écologique, c'est-à-dire peut-être continuer à perpétuer les innovations techniques en matière de renouvelables, par exemple sur la question énergétique, c'est pas compatible complètement avec la question des disponibilités des ressources. Donc, tu vois, c'est cet imaginaire de l'innovation technique qui, finalement, il n'est pas tellement interrogé. Tu citais les travaux de concertation décision environnement. On a fait un article avec Caroline Lejeune là-dessus où on dit bah, finalement la question environnementale, elle n'a pas été tellement interrogée en tant que telle. C'était comment on fait mieux passer le débat sur l'environnement sans qu'on interroge de quel environnement parle-t-on. Et dès lors qu'on interroge la nature de cet environnement, on est sur des positions normatives très, très radicalement différentes. Mais il y en a une qui est dominante, durabilité faible, et une qui est minoritaire, la durabilité forte. Comment tu sors de cette position paradoxale, en fait, de ta posture, même si tu ne veux pas être un acceptologue, tu participes au dispositif.
Oui, c'est un choix qui est cornélien, très difficile, mais je ne t'explique pas quand on travaille sur des systèmes biomédicaux d'arriver avec la question écologique. Alors là, c'est vraiment... c'est à 180 degrés, et pourtant c'est une question qu'on a envie de poser quand on discute de la loi de Moore, de la chute du prix du séquençage de l'ADN, et qu'on dit, voilà, vous aurez votre séquence d'ADN pour 10 balles dans 5 ans, et ok, mais et alors, on va commencer à discuter de ce que ça implique au niveau technologique. Donc, je veux dire que c'est que le facteur de décision, je dirais que du moment où on arrive à améliorer un peu, déjà, la robustesse sociale du dispositif, à le ralentir, à complexifier la vision que les acteurs ont du spectre des intérêts, des débordements qu'on peut inventorier, on y va. En gros, c'est ça. En général, c'est ce qu'on arrive à faire assez vite, parce que... mais le contexte, après, c'est un choix qui doit se faire, à mon avis, en fonction du contexte. Alors, si le contexte est un contexte d'instrumentalisation à 90%, il ne faut pas y aller. Et typiquement, on a ce problème avec les éthiques, hein, les nanoéthiques, les neuroéthiques, etc., enfin... des espèces d'éthiques prêtes à porter qu'on développe parce qu'une technologie est censée amener une rupture, toutes ces technologies de rupture, ça montre bien le problème. Alors, en plus, on a une revue qui se crée avec chaque fois. On a la revue nanoéthique, on a la revue neuroéthique, etc. On fait tous la critique de ça, mais on publie dans ces revues. Donc là, on a une co-responsabilité qui est très difficile à dépasser, qui est, en fait, c'est vrai, on participe à la mise au monde de ces entités avec souvent une éthique du fantasme. C'est-à-dire, on n'est même pas en train de discuter, en fait, on est dans une éthique fantasmée, sur des enjeux fantasmés, on n'est même pas en train de discuter des impacts réels. Les nanos, c'était typique. Quand on a commencé à débattre des nanos, on parlait de n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire, les nanotechnologies, ça n'existe pas, empiriquement, pragmatiquement, ça n'existe pas. Il y a des nanoparticules, il y a de la micro-informatique, il y a des nanomatériaux, là, on peut commencer à discuter, on peut parler de nanotechnologie en général. Donc, on a ce problème-là qui est très délicat. Je dirais qu'alors, un critère de tri très simple, relativement simple pour moi, c'est quand on est sur les questions biomédicales, où on peut amener un peu de... diminuer un peu la vulnérabilité des personnes qui sont exposées à ces techniques, il faut y aller. Parce que là, on a aussi des représentants, vous en avez beaucoup en France, en Suisse, on a beaucoup moins bonne posture pour ça, on a des groupes concernés, des groupes de malades en particulier, qui sont extrêmement... qui produisent une contre-expertise, une expertise très forte, et en s'associant à eux, on peut faire un très bon boulot. C'est-à-dire que notre boulot aussi, c'est d'être des têtes de pont pour introduire des acteurs qui vont empêcher les innovateurs de penser en rond. Ça fait partie, à mon avis, de notre boulot. C'est vraiment de fournir une porte d'entrée pour des acteurs sociaux qui n'ont pas voix au chapitre, qui est la même chose dans les processus délibératifs par rapport à ces développements technologiques. Mais enfin, c'est une question qui n'a pas de réponse satisfaisante.
Non,
mais on se la pose tous les jours. C'est...